Morning Hossegor, l'interview, rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h. Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Hossegor, l'interview sur Web Radio, nouveau rendez-vous à Cap-Breton dans le cadre des rendez-vous du GOUF. La commune et Hugo Verlhomme vous proposent ce jeudi, le 11 avril, à 18h30 à la salle phare du Casino Municipal, une conférence intitulée « Filmer la mer entre fiction et réalité » avec la projection du film « Silence en Méditerranée ». Et cette conférence, projection de film, se fera en compagnie de deux passionnés d'océan. Et pour découvrir ce beau programme, j'ai le plaisir de recevoir l'écrivain, journaliste et conférencier Hugo Verlhomme. Bonjour Hugo.
Bonjour Élise.
Tu vas bien ?
Très très bien, merci.
Merci de venir nous parler de ce grand rendez-vous. Jeudi, à tes côtés pour cette conférence, deux grands noms de l'océan, Jean-Charles Grandjean, biologiste marin, plongeur, cinéaste, et Leslie Bisset, océanologue, plongeuse et photographe naturaliste. Des passionnés bien occupés, c'est vraiment une chance de les avoir ce jeudi.
C'est des gens qu'on ne voit pas beaucoup, qui sont assez discrets, assez modestes par rapport à leur CV. Jean-Charles Grandjean, je le connais depuis qu'il est assez jeune, puisqu'il était fan d'un de mes livres qui s'appelle « Mer-mer », qui a vraiment contribué à sa vocation, dit-il. Et donc, il est venu me trouver en disant qu'il voulait vraiment filmer la mer, etc. Mais c'était il y a longtemps. Et depuis, il a progressé de façon exponentielle. Disons que tous les grands blockbusters qui se tournent en France et qui ont besoin d'une séquence sous-marine, c'est lui qui les réalise. Il a donc monté sa propre boîte de production qui s'appelle Blue Earth Production. Et il a même une école de caméras sous-marines. Et en fait, il a travaillé avec les plus grands pendant des années, que ce soit avec Jacques Perrin, Laurent Balesta, des gens comme ça, 700 requins, Océan de Perrin, tout ça. Il y a des séquences qu'il a tournées. Il a tourné un film extraordinaire il est venu il y a 2 ans nous le présenter dans le cadre des conférences du GOUF, un film que je vous recommande qui est bouleversant. Et moi, je suis très difficile en matière de films de mer. J'aime pas ça généralement, parce que je connais bien et je trouve que tout est plus ou moins pas bien fait. Mais celui-là, et c'est pas du tout parce que c'est Jean-Charles, mais c'est un film extraordinaire qui s'appelle « La quête du sauvage », qui a été primé de nombreuses fois. Et quand on l'a passé à Cap-Breton il y a 2 ans, ça a été un tabac. Les gens en ont parlé pendant des jours et des jours. C'est une espèce d'initiation chamanique au pays des orques, dans les fjords de Norvège, dans une eau glacée, beaucoup filmée la nuit, au milieu des grands navires de pêche avec des chaluts qui pêchent le hareng, ce qui attire évidemment les orques. Et donc, il travaille beaucoup avec un triple champion du monde d'apnée qui s'appelle Morgan Bourkis, pour lequel il a fait faire aussi une combinaison argentée qu'il porte dans ses plongées et qui fait qu'on a des images sur une épave à 30 mètres, par exemple, où il est dans cette combinaison argentée. On a l'impression que c'est de la 3D, que c'est une intelligence artificielle et tout. C'est juste un gars avec une combi et un caméraman sous l'eau. Ils ont fait des images extraordinaires. Et de plus en plus, Jean-Charles, bien sûr, il a tourné avec Omar Sy, Mimi Mati, Candice Renoir, tous les trucs, les Netflix, les séries Netflix. Tout ça, on lui demande sans arrêt. Mais ce qu'il veut, c'est vraiment faire ses films à lui, ses fictions. Et alors, il y a un truc assez marrant, c'est qu'il y a des années et des années, je me promenais près de la digue à Tarnos, et il y avait un gars qui était là, qui construisait son propre bateau, vous en avez sans doute parlé, il s'appelait Ismaël. Pendant 1 an ou 2, on avait l'impression que c'était un hurluberlu, il voulait construire son propre catamaran pour aller retrouver sa fille en Polynésie. Sur le parking de la digue. Et on se disait,
doux rêveur.
Vachement optimiste et tout. Et en fait, je parle à Jean-Charles, que je retrouve après des années. Il me dit, oui, j'ai fait un film sur un mec extraordinaire qui nage d'île en île, avec qui il est en contact avec l'esprit de l'océan. Il s'appelle Ismaël et tout. Et je commence à parler. Je dis, mais c'est pas. Et c'était l'Ismaël qui était sur le parking, qui est retourné dans les Marquises. Et il a tourné un film avec Ismaël qui est absolument extraordinaire. Ce gars nage d'île en île, mais avec un esprit. Il y a beaucoup de chamanisme dans ce qu'il fait, du vrai, pas celui qui est dilué aujourd'hui à toutes les sauces, et notamment au Pays des Orques, il trouve des pétroglyphes, il parle à des archéologues, des gens qui connaissent les chamans, etc. Ça, c'est le côté passionnant de Jean-Charles, et qui va transmettre de plus en plus dans ses films personnels, les courts-métrages. On a la chance qu'il nous présente jeudi 11 à 18h30, en première mondiale, le court-métrage qui vient de tourner avec Morgane Bourquis, qui s'appelle Inspiration, et dont je pense que ça va être un choc visuel énorme. L'affiche de cette soirée pour le Gouffre, c'est une des images extraites de Inspiration.
Et qui a été tourné où, celui-ci ?
Ben, je ne sais pas.
Ah, tu ne sais pas, tu vas tout découvrir jeudi
soir
en même temps que
nous. Oui, je lui ai fait exprès de ne pas lui poser de questions pour être complètement innocent en le voyant. Donc on va voir ça, et puis on va voir aussi, alors il y a Jean-Charles, et on a la chance que Jean-Charles, sa compagne, qui s'appelle Leslie Bisset, elle est océanologue, c'est une femme absolument passionnée par l'océan autant que lui, donc ça c'est quand même merveilleux.
Ils sont bien trouvés.
Et alors elle, je me souviens, ils sont venus me voir au mois de janvier, il y a 2 ans, ou 3 ans, je ne sais plus. Et elle est fanat de surf. Alors, ils arrivent en camionnette. Donc, on se retrouve chez un ami et tout. Et puis là, j'étais venu par mes propres moyens. Et en repartant, ils me disent, on te ramène, on vient avec toi et tout. Donc, je vois une camionnette, une grande camionnette. Et ils me disent, oh là là, je ne sais pas si on va avoir la place. Je dis, on est 3. Il me dit, non, mais regarde. Et là, il ouvre la camionnette. Il y avait 6 ou 7 planches de surf.
Okay.
Pour Leslie, qui voulait avoir la bonne planche pour les bonnes conditions. Elle est vraiment accro au surf, à la mer. Et donc, elle avait son propre voilier, qu'elle a utilisé comme un voilier d'association océanographique en Méditerranée. Ça s'appelait Oui Océan. D'après ce que j'ai compris, elle est passée à un autre projet maintenant. Mais donc, c'est une grande plongeuse aussi. Et là, elle se passionne pour une sorte de recherche sous-marine qu'on appelle « black water ». C'est-à-dire, c'est tout ce qui se fait dans des eaux où il fait noir. Noir comme dans un four.
Donc très profonde ?
Pas forcément, non, ça peut être la nuit.
Ok.
Et en fait, c'est comme dans une forêt. Si on va dans une forêt à midi, on dit « bon, il n'y a pas un animal ici, c'est nul ». On y va un petit peu avant l'aube, on y va la nuit, brusquement ça grouille partout, etc. L'océan, c'est pareil. Et il y a tellement de créatures qu'on ne peut voir pratiquement que la nuit parce qu'elles sont bioluminescentes ou bien parce qu'elles vivent dans la zone mésophotique, c'est-à-dire la zone où il n'y a pas de lumière, que là, on a des images, mais vraiment, enfin, tous les 3D de Cameron, tout ça, c'est même laissé derrière. Il le reconnaît lui-même, puisqu'il s'est inspiré réellement de créatures sous-marines pour faire ces... Mais on voit des créatures qu'on n'oserait même pas imaginer sur une autre planète. C'est fantastique. Et donc, elle se passionne pour ça. Et elle va nous présenter un film que j'ai vu déjà, qu'elle a tourné avec Jean-Charles pendant le confinement en Méditerranée, qui s'appelle « Silence en Méditerranée ». Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais le monde du silence, évidemment, c'est tout à fait l'inverse qui se passe, puisque ça vous est tous arrivé de vous baigner dans une plage, de mettre la tête sous l'eau, et là, on entend un moteur, on lève la tête, et le bateau, il est ça se trouve, il est à 1 mille ou à 1 kilomètre de là.
Mais
et
on l'entend.
Parce que le son, c'est x3 sous l'eau. Et donc, les animaux marins, en particulier les cétacés, bien sûr, ils fonctionnent pratiquement uniquement avec le son. Les yeux, les baleines, tout ça, c'est vraiment le son, et puis d'autres perceptions. Et donc, en Méditerranée, quand ce n'est pas le confinement, c'est le périphérique tous les 100 mètres. Donc les champs de baleines, les communications de cachalots, tout ça, ça ne fonctionne pas vraiment. Et là, ils avaient cette occasion unique, ils avaient des autorisations évidemment, pour pouvoir aller faire un travail océanographique pendant qu'il y avait 0 bateau en Méditerranée. 0 pendant le confinement, il y avait 0 bateau. Et là, donc, ils ont eu des résultats absolument passionnants. Et vous verrez dans le film comment communiquent les cachalots. Et c'est pas ce qu'on croit, c'est de la 3D. Et nous, avec tous nos moyens technologiques, on est encore à la ramasse, quoi.
C'est vrai qu'on a beaucoup entendu pendant et après les confinements que cette période de réduction d'activité humaine avait eu un impact positif et énorme sur toute la faune sur Terre, mais on en a très peu parlé sous l'eau, en fait.
C'est ça, on se rend pas compte
de l'impact. Mais l'effet était le même.
Du bruit. Le bruit, le bruit, le bruit. Toujours le bruit qui fait fuir tout le monde, quoi, et qui les animaux se rabougrissent. Donc, Silence en Méditerranée, c'est un film vraiment passionnant, on apprend énormément de choses. Voilà, et puis Jean-Charles va un peu nous montrer comment il travaille, avec sa boîte pour former les opérateurs sous-marins. Et puis, ils ont évidemment des projets faramineux.
Et cette conférence qui s'intitule « Filmer la mer entre fiction et réalité », c'est pour... filmer, c'est pour mieux connaître et protéger l'océan. Hein. Le film représente un média formidable. Mais tu le disais, toi, t'es pas toujours convaincu par des films, certaines productions. Là, c'est pour montrer que derrière les images qu'on admire ou qu'on découvre, on soupçonne pas la réalité des difficultés des tournages aussi.
Alors, effectivement, c'est vrai ça, parce que c'est des conditions parfois, par exemple, plonger la nuit... C'est très compliqué. Et puis, moi, je l'ai fait à 2 mètres de fond. C'est un côté, on est complètement désorienté, on ne voit que ce que le projecteur voit. Et la dernière fois, parce que lui, Jean-Charles, avait filmé un poisson qui est très difficile à filmer, qu'on trouve d'ailleurs dans le gouffre de Cabreton, qui s'appelle le régalec. Le régalec, c'est un poisson mythique, on l'appelle aussi le roi des harengs, et c'est ce qui était confondu très longtemps avec un serpent de mer. C'est un poisson tout plat, vertical, qui peut faire jusqu'à 7 mètres de long, okay. Avec devant des espèces de barbiches, d'antennes de toutes les couleurs. C'est un poisson absolument incroyablement beau. Et donc, pour, je crois, avec Balesta ou pour un documentaire, on lui a dit qu'il, voilà, il devait aller filmer le régalec, mais le régalec, on le voit que la nuit. Et donc, il plonge la nuit en Méditerranée, au-dessus des grands fonds, à une profondeur assez importante, tout seul, etc. Ce qui est déjà, quand on est à, je sais pas, à plus de 50 mètres ou un truc comme ça. Et il cherche avec sa lampe et tout. Et puis, il se rend compte qu'il voit rien avec sa lampe, quoi. Et alors, et à un moment donné, il sent quelque chose et il éteint. Et là, le régalec apparaît. Et alors, ce qu'on avait fait quand il avait présenté ça sur scène, c'est qu'il explique ça beaucoup mieux que je le fais, il l'a vécu, il a pris le temps de l'expliquer, et on s'était mis d'accord avec la régie, et il dit là, brusquement, et hop, toute la salle était dans le noir complet, et là il explique comment le régalec est apparu bien plus que visuellement, quoi, qu'il était là, après il a pu le filmer, mais il est apparu une fois qu'il a éteint, et quand on est dans le noir, à 50 mètres de fond, c'est affolant, on ne sait plus, mais c'est pire que l'espace, il n'y a plus aucun repère.
Tu nous disais que tu étais un peu difficile en film de mer, en images sur la mer et sous-marine. Qu'est-ce qui te touche dans ces productions, ces réalisations ?
Ce qui ne me touche pas, en tout cas, c'est le côté répétitif des documentaires animaliers, aussi sublime soit-il. C'est-à-dire que j'en parlais avec Jacques Perrin lui-même, qui ça manque tant qu'il n'y a pas de l'émotion humaine. Ok, on peut présenter les baleines qui allaitent, qui sont massacrées, qui ceci, qui dans les vagues, les dauphins, les trucs. On a vu un milliard d'images maintenant. Et donc, ce que j'aimerais faire avec Jean-Charles, puisqu'on a quand même un projet un petit peu à long terme ensemble, c'est d'aller plus dans le côté chamanisme, sorcellerie, monde surnaturel de l'océan. Et puis de créer, parce que ce qu'il avait aimé dans le Mer-Mer, le livre qu'il avait vraiment, qu'il avait beaucoup aimé, c'était avant tout l'histoire humaine. C'est l'histoire de ce jeune garçon qui est né dans la mer, parce que voilà, on est dans un futur, il n'y a plus que quelques personnes qui vivent sur la mer, et lui, il n'a jamais vu la Terre. Et un matin, une nuit, il se réveille, il a un cauchemar affreux, il voit un monstre, il ne sait pas ce que c'est, il va voir sa mère, et sa mère comprend qu'il vient de rêver d'un arbre. Qu'il n'avait jamais vu d'arbre. Et donc, c'est la quête de ce jeune homme pour découvrir la Terre, etc. C'est ça qui l'a intéressé. Ce n'est pas le fait que ce jeune homme vit sur un radeau de Pierre Ponce qui joue avec les dauphins, etc., ce qui est vrai aussi. Mais voilà, et donc, et ça, je ne trouve pas... Je connais très bien les films de mer, je les ai à peu près tous vus. J'avais même commencé un bouquin sur le cinéma et la mer. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de travailler avec Jean-Charles. Et en fait, tous les films qui ont été faits autour de la mer, ils sont ratés parce que c'est pas fait vraiment par des marins. Par exemple, champ contre champ, la mer est pas dans le même état. Un côté, elle est plate. Un côté, il y a des risées, etc., etc. Enfin, tout est... Et puis, c'est tellement compliqué techniquement. Ça l'était, en tout cas. Maintenant, beaucoup moins. Avec une simple GoPro, on fait des images sublimes. Mais que... même le radeau de la Méduse, on avait parlé avec Chouraki, Polanski, pirate, c'est une catastrophe du point de vue... Et tout a coûté des fortunes. Les gens de mal de mer, etc. Donc c'est passionnant, les histoires de films, et les gens mélangent des belles images, et puis un vrai film. Et nous, c'est ce qu'on voudrait faire. Je pense que pas grand monde l'a fait.
Bon, on poursuit cette conversation autour de cette conférence Filmer la mer entre fiction et réalité et vos projets dans quelques minutes. Après une pause en musique, c'est pas ton choix d'ailleurs.
Alors, j'ai demandé à Jean-Charles Grandjean et Leslie Bisset s'ils avaient une musique qui les touchait particulièrement. Alors évidemment, ça les a mis en « Oh là là, oui, mais est-ce que... Oui, non, c'est comme toujours. »
C'est jamais simple de choisir.
Non, et puis moi, j'étais ravi de me décharger de ça. Alors il me dit « Bah écoute, il y a un truc qui me touche énormément, c'est l'orchestre philharmonique de Wellington, pas philharmonique, mais l'orchestre national de Wellington en Nouvelle-Zélande, avec des Maoris, on les voit à l'image d'ailleurs sur la chanson YouTube, et qui chantent une ode à la mer. Alors il explique au début que voilà, les marins, quand ils vont en mer, ils s'adressent à l'océan, et je vous laisse écouter le premier son le premier son qui s'adresse à l'océan, qui est sublime.
C'est We Know the Way de Tevaka et l'orchestre de Wellington.
In the turtle of the night.
Say ever I might.
In the turtle of the night.
Say ever my lama lama.
In the lame of the manaya.
Say ever I might.
Manaya on the turtle of the night.
Vaca avec l'orchestre de Wellington dans Good Morning Osegor, l'interview. C'est la programmation de Jean-Charles Grandjean et de Leslie Bisset qui seront en conférence en compagnie d'Hugo Verlhomme ce jeudi à la salle phare du casino municipal de Cap-Breton. Une conférence que Hugo est venu nous présenter, Filmer la mer entre fiction et réalité. Alors, conférence et projection du film Silence en Méditerranée, ainsi que un court-métrage
Inspiration.
Inédit. Ouais, Inspiration de Jean-Charles Grandjean. Et puis, on le disait, donc Jean-Charles Grandjean, le réalisateur du film, et Leslie Bisset qui a fondé le voilier We Ocean pour des projets scientifiques et audiovisuels, à bord duquel donc le film Silence en Méditerranée a été tourné. Alors, ces deux passionnés sont présents à Cap-Breton pour partager leur film et leur parcours ultra inspirant, Hugo, mais aussi parce que vous avez des projets ensemble.
Alors oui, c'est des projets, c'est un peu tôt pour en parler, mais c'est vrai que Jean-Charles, il a ce pouvoir maintenant de filmer ce qu'il veut. Il sait filmer mieux que personne. Et il a le temps, il fait beaucoup de choses, beaucoup de films sous-marins. Donc il acquiert du matériel, de l'expérience et du savoir-faire. Et on met en place... l'idée, ça serait, enfin pour moi, ça serait de faire ce que je considérais comme le premier vrai film de fiction de mer. Il y en a, je les ai tous vus, que ce soit Waterworld et tout. Et même Le Grand Bleu, qui est un bon film, c'est pas vraiment un film de mer. On voit de l'eau. Et l'eau, c'est pas la mer. C'est pas parce qu'on voit quelqu'un sous l'eau que c'est la mer. La mer, c'est tout un ensemble de choses. Et des gens qui vivent de la mer, ils ont une tronche que les autres n'ont pas. Enfin, Ne serait-ce que les cheveux délavés, les yeux explosés, le teint buriné, tout ça, ça ne s'invente pas. Et donc de faire avec des vrais watermen, quoi. Pas avec des acteurs.
Un projet d'envergure.
Ben non, justement, mon rêve à moi, et c'est ce que j'essaie de faire passer comme idée, c'est d'arriver à faire un film comme ça qui ne soit pas un film trop lourd. Parce qu'on peut, il y a des images simplement sous les vagues avec une GoPro. Moi, je fais des images merveilleuses. Que fait la GoPro, hein, c'est pas moi. Il y a des tas de choses magnifiques qu'on peut filmer qui coûtent pas cher parce que c'est l'océan qui les fournit. Il suffit d'avoir les bonnes caméras, les bons acteurs pour être au bon endroit. Et justement, on n'a pas forcément besoin des moyens d'avatar, par exemple. Ça finit par être aussi répétitif, et puis à force de voir des images animées, même si elles sont bien faites avec les yeux qui ressemblent encore plus qu'à des humains, mais bah il y a une émotion qui se perd quand même. Et moi justement, je voudrais faire presque sans trucage, pratiquement juste avec les vraies images de la mer, les vrais dauphins, les vraies baleines, les vrais requins, les vrais gens qui flottent, et pas d'effets spéciaux pratiquement. Ça pour moi, ça serait le rêve.
Quand tu as écrit Mère, qui a largement inspiré Jean-Charles Granjon pour sa carrière, tu avais des images, j'imagine, c'est pas possible autrement. Ce serait possible de l'adapter un jour au cinéma ?
Bah, c'est un peu ça le rêve. Il y a déjà plusieurs personnes qui s'y sont cassées les dents. Il y a eu des grosses boîtes de prod qui ont acheté les droits plusieurs fois, mais ils m'ont pas écouté. Et donc, s'il faut faire un film de style Avatar, on va faire moins bien que James Cameron, de toute façon, qui est quand même un génie et un fou d'océan. C'est vraiment un homme de l'océan, Cameron, que je respecte pour ça énormément, et pour ce film aussi, d'ailleurs. Mais donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Justement, on serait carrément les plus forts si on faisait un film minimaliste, mais où on en sort, mais ébloui, quoi. Minimaliste au niveau budget, je veux dire, pas au niveau effet. Et enfin, au niveau... De toute façon, un film de mer, même si on tourne un simple court-métrage, etc., ça va coûter très cher, le matos, etc.
Puis
le bateau, tout est cher. Mais le faire avec les moyens du bord et aller vers les images qu'on sait qu'on peut trouver, on sait où trouver les plus grosses vagues du monde, on sait où trouver des endroits qui grouillent de poissons, on y va et on tourne. Et voilà, moi, c'est ça dont je rêve, et pas du tout d'avoir des effets spéciaux fabuleux, quoi.
Ce qui te manque, toi, dans les productions qui existent, et ce qui vous unit peut-être avec Jean-Charles Granjon, c'est le fait que l'océan soit un personnage à part entière,
c'est
et
ça.
Puis ça, c'est à des dimensions magiques aussi.
C'est exactement ça. Et ça aucun film le montre, à part peut-être dans Abyss, un petit peu, on a ce côté-là, quand même, de cette voilà. Mais effectivement, c'est ça le but, c'est que personnage principal... Mr. Ocean, quoi. Voilà, bim. C'est vraiment ça, tu as parfaitement raison de le dire. Et puis nous, on est des petits pions, on raconte une histoire et on présente ce monde avec des gens qui ben il y en a beaucoup aujourd'hui, des watermen, des gens capables de descendre à 30-40 mètres tranquillement, de rester 3-4 minutes sous l'eau. Il y en a des dizaines. Avec de l'entraînement, à peu près tout le monde normalement constitué y arrive en plus. Donc voilà, être des gens qui sont vraiment à l'aise dans l'eau, quoi. Et on peut faire des images. Si on arrive, évidemment, il faut qu'ils soient un peu comédiens. Ça, c'est plus compliqué déjà. Mais on va bien y arriver, puisqu'aujourd'hui, tellement de gens sont passionnés par l'eau que...
Bon, en attendant cette production... Conférence ce jeudi 11 avril à 18h30 à la salle phare du Casino Municipal que tu animes avec Jean-Charles Granjon et Leslie Bisset. D'autres projets dans le cadre des rendez-vous du Gouffre, Hugo ?
Dans le cadre des rendez-vous du Gouffre, pas avant l'été.
Ok.
Parce que voilà, j'ai un nombre de conférences qui sont... donc il y en aura une l'automne prochain. Je peux annoncer déjà, mais ça c'est vraiment en prenant de l'avance, mais que la 7e journée, 6e journée du Gouffre aura lieu le 12 octobre 2025.
On peut déjà cocher la date dans notre agenda.
Absolument, que ça va être une belle édition parce que je commence déjà à retenir les gens. Mais sinon, en dehors de la programmation Gouffre, on vient
rendez-vous
de finir...
Rendez-vous à l'automne. Rendez-vous à l'automne après cette conférence.
Alors, rendez-vous à l'automne, mais sinon, parce qu'il est beaucoup question du Canyon aussi, on vient de finir avec Valentine Karwowski un livre qui s'appelle « Une maison pour l'éternité ». Et qui est en quelque sorte un spin-off des précédents, Doigts mordus, etc.
Ah, donc c'est le troisième volet de la série, mais c'est pas le troisième
c'est
dans le temps.
C'est un livre unique qui sort, c'est un roman qui sort, qui s'appelle Une maison pour l'éternité. Et les lecteurs des deux précédents comprendront, mais les gens qui n'ont pas lu comprendront aussi. Et on est parti assez loin, on s'est assez bien éclaté sur ce roman. Parce que ce qu'on aime, en fait, c'est mélanger le présent et puis le voyage dans le temps. Enfin, le voyage, pas au sens science-fiction, Et donc on a vraiment on apprend des tas de choses sur la région.
On fait des bonds dans le passé.
Oui, voilà, dans le passé le plus lointain, puisqu'on remonte le plus ancien, c'est le 12e siècle à Seignos. Donc on remonte vraiment loin quand même.
Et la date de sortie de ce roman ?
Alors la date de sortie, c'est le 21 juin.
Ok.
Voilà.
Édition Sud-Ouest ?
Édition Sud-Ouest, tout à fait. Et puis avec pas mal de choses sur le canyon, des nouveautés sur le canyon, des choses que les gens ne connaissent pas. Et qui remonte jusque dans les terres, et puis sur les roches du Doigt Mordu, où il se passe vraiment quelque chose pour de bon, puisque Under the Pole et d'autres plongeurs comme Nicolas Vidoux y sont allés. Et là, il y a des choses peut-être passionnantes à découvrir et qui sont dans le bouquin sous forme de la fiction.
Bon, un roman qui s'inscrit dans la thématique de cette conférence entre fiction et réalité.
Exactement.
Bon, parfait. Bah, écoute, on se reverra certainement à l'antenne avec Valentine pour parler de ce livre. Et en attendant, ne manquez pas cette conférence Film et la mer entre fiction et réalité avec projection de film animée par Hugo Verlhomme. C'est ce jeudi à 18h30 à la salle phare du casino municipal de Cap-Breton. L'entrée est gratuite et c'est sans réservation. Donc n'arrivez pas trop tard si vous souhaitez avoir des places. Merci beaucoup Hugo.
Merci Élise.
C'était Good Morning Hossegor, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.